Andréane, êtes-vous là? Andréane Mélard, la suite de la matinale de Radio France Internationale.
Merci.
Je ne sais pas si les auditeurs et auditrices vous ont entendu. Moi, je ne vous entendais pas dans le casque. Nous ne sommes pas dans le même studio.
On est bien
voilà,
là, en tout cas.
Vous avez tous les détails. À tout
merci,
à l'heure.
Vincent Dublanche, 7h43. Apparaît tout de suite le journal des sports. Bon, tout le monde est là. Bonjour Antoine Grenier. Bonjour. On peut commencer.
Moi, je suis là depuis longtemps. Bonjour
Andréane. Des sports, bon, ça c'est fait. C'est pour moi. Je prends fin de parcours pour l'Al-Ahly du Caire.
Les carottes n'étaient pas cuites au coup d'envoi. Pour preuve, le triplé de leur attaquant palestinien Wessam Abou Ali. Mais le nul, 4 partout face au FC Porto, n'a pas suffi, Baptiste Leduc.
Par 3 fois, son nom a résonné dans le MetLife Stadium, mais le triplé de Wessam Abou Ali n'a pas suffi. Aussi flamboyant offensivement que poreux défensivement, Al-Ahly a au moins eu le mérite d'offrir un beau baroud d'honneur à un stade qui n'avait d'yeu et de voix que pour eux. Mohamed Magdi, milieu de terrain du club égyptien, a quand même quelques regrets.
C'est un grand match contre une grande équipe. On a eu énormément d'occasions et même si on marque 4 buts, on a beaucoup gâché.
Al-Ahly termine dernier de son groupe, un échec pour le géant africain. Pour les observateurs, tout s'explique par un manque de repères. C'est l'avis de Mohamed Youssef, journaliste égyptien spécialiste du club Kerot.
Pour moi, le coach et certains nouveaux joueurs n'ont pas eu assez de matchs ensemble avant la compétition. Pour moi, c'est ce qui explique qu'Al-Ahly ne sera pas en 8e.
Al-Ahly l'a prouvé ce soir, le très haut niveau international n'est pas loin pour le géant du Caire. Baptiste Leduc, New York, RFI.
Et dans ce même groupe, l'Inter Miami a obtenu son billet pour les 8e de finale en obtenant le nul de partout face à Palmeiras.
Ce qui donnera des retrouvailles entre Léo Messi et son ancien club, le Paris Saint-Germain.
Où l'octuple Ballon d'Or a traîné sa misère pendant 2 ans avant de rejoindre les États-Unis. Messi pas heureux à Paris face à un Paris pas malheureux depuis le départ de Messi. Champion d'Europe fin mai, les Parisiens se sont qualifiés après leur succès 2-0 sur Seattle avec au passage un but d'Achraf Hakimi. Dans ce groupe B, ça passe également pour Botafogo battu par l'Atlético de Madrid 1-0, mais qualifié grâce à une meilleure différence de but.
Ce mardi, suite de cette 3e journée du Mondial des clubs, déjà qualifié, le Bayern Munich en lice pour un 3e succès.
Les Bavarois affrontent le Benfica Lisbonne à 19h, temps universel. En cas de défaite des Portugais, Boca Junior est à l'affût, 3 points derrière. Les Argentins affrontent les Néo-Zélandais d'Auckland City. Dans la nuit et dans la poule des Flamengo, déjà qualifié, affrontent le Los Angeles FC. Le 2e billet pour les 8e de finale se jouera entre Chelsea et l'Espérance de Tunis. À égalité de points avec les Londoniens, les Tunisiens joueront leur chance à fond, prévient leur entraîneur Maher Kanzari.
Ce sera notre 3e match contre Chelsea et celui-là déterminera qui sera 2e. Ce ne sera pas un match comme les autres. Nous sommes préparés et devons répondre aux attentes de nos dirigeants, de nos supporters et du public tunisien. Ce sera un match historique. Nous serons bien préparés, surtout mentalement. Tout le monde attend ce match avec impatience et nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à présent. J'espère que nous ferons le nécessaire. C'est un match très important pour nous sur de nombreux aspects. On a un bon niveau de jeu et on espère pouvoir le prouver.
Chelsea, Espérance de Tunis, coup d'envoi, 1h, temps universel.
Merci Antoine Grenier.
RFI, toute l'actualité. Andréane Mélard.
Donald Trump annonce ce matin que la trêve entre Iran et Israël est entrée en vigueur et le président américain exhorte toutes les parties à le respecter. Situation encore confuse à ce stade car des frappes nombreuses ont été observées ces dernières heures. 4 morts en Israël. L'armée israélienne de son côté annonce que la population n'est plus tenue de rester à proximité d'un abri. C'est sur cette toile de fond que s'ouvre aujourd'hui le sommet de l'OTAN à La Haye aux Pays-Bas et un sommet auquel va participer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que ce matin des frappes de drones russes ont fait 3 morts, dont un enfant dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine. Il est l'actuel président Sierra Leonais et Julius Maada Bio est aussi désormais le président de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Alors pourquoi ce choix? Quelles seront ses priorités à ce président africain qui, à la différence de beaucoup de ses pairs, a promis de ne pas se représenter pour un 3e mandat? Le chercheur sénégalais Pape Ibrahima Kan est un spécialiste des questions régionales en Afrique et il est l'invité de RFI ce matin. Il répond à Christophe Boisbouffier.
Pape Ibrahima Kan, bonjour. Bonjour.
C'est le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui était fortement pressenti pour prendre la tête de la CDAO au nom de l'alternance anglophone-francophone. Mais finalement, c'est le Sierra Leonais Julius Maada Bio qui a été choisi. Pourquoi cette désignation surprise ?
Bon, je sais que la CDAO est dans une dynamique de négociation avec l'AES. Un militaire parlant à des militaires, c'est peut-être une bonne méthode d'approche de la situation, d'autant plus que il y a beaucoup, beaucoup de méfiance entre la CDAO et les États de l'AES. Ces éléments-là ont certainement dû jouer. Depuis un an, les lignes commencent à bouger. Il y a à peine 10 jours qu'une réunion s'était tenue à Accra et qui avait réuni beaucoup, beaucoup d'acteurs, aussi bien des États de l'AES que des États de la CDAO. Et les choses se sont très, très, très bien passées. Les lignes bougent. Rappelez-vous l'interview que le ministre des Affaires étrangères du Mali a récemment fait à une télévision togolaise. Mais l'approche était totalement différente de ce qu'il y avait il y a un an.
Oui, dans cette interview, le ministre malien Abdoulaye Diop a déclaré que les trois États de l'AES entraient dans une phase d'apaisement et de réalisme avec la CDAO. Il a appelé à la conclusion rapide d'un accord sur les questions commerciales et la libre circulation des personnes. Est-ce à dire que les trois États de l'AES veulent garder les avantages de la CDAO tout en quittant l'organisation ?
Tout à fait. Je pense que avec la situation qui prévaut sur le terrain, notamment au plan sécuritaire et aussi au plan économique, les États de l'AES réalisent que les choses ne sont pas aussi faciles. Et je pense que la réunion qui s'est tenue à Bamako entre le président de la Commission et les ministres des Affaires étrangères a vraiment permis de déblayer le terrain et comme l'a dit le président Tinubu dans son discours, il pense que tôt ou tard, les trois pays reviendront dans la maison mère.
Alors vous l'avez dit, Julius Maada Bio est un ancien militaire putschiste qui s'est converti à la démocratie puisqu'il y a presque 30 ans, il a quitté volontairement le pouvoir, puis il a été élu 2 fois démocratiquement et promet aujourd'hui de ne pas faire de 3e mandat. Est-ce à dire que sur les questions constitutionnelles, il sera vigilant avec les 11 autres États membres de la CDAO ?
Il est obligé d'être vigilant parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est le gardien du respect de toutes les règles communautaires que la CDAO s'est donné en la matière. Vous avez rappelé qu'il a lui-même décidé de ne pas faire un 3e mandat. Et donc, son rôle en tant que président en exercice, c'est de s'assurer au moins que la CDAO respecte la démocratie, respecte les droits de l'homme.
Et si, par exemple, Alassane Ouattara sollicite un 4e mandat en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que son homologue Sierra Leone fera une observation?
Ah, mais la communauté sera obligée de se prononcer sur cette question parce que si nous sommes là, c'est parce qu'un certain nombre de règles n'ont pas été respectées. C'est parce que beaucoup de présidents se sont donné la liberté de faire ce qu'ils voulaient. Maintenant, on va voir si Maada Bio et le président de la commission Touré vont être courageux pour mettre les dirigeants devant leurs responsabilités. Ce qui s'est passé au Togo, ces manipulations de constitution, un président qui quitte le poste de président pour devenir premier ministre simplement pour rester au pouvoir, c'est des choses qui ne doivent pas être acceptées dans une région. La CDAO doit montrer cela aux dirigeants de manière à ce que le déficit de confiance qu'il y a entre la CDAO et les populations, que ce déficit-là s'amenuise.
Et si, contrairement à sa promesse initiale, le général Mamadi Doumbouya se présente à la future présidentielle en Guinée, est-ce que vous pensez que son voisin de Sierra Leone sortira le carton jaune ?
Ah, mais cette question, ça ne relève pas seulement de la CDAO, ça relève aussi de l'Union africaine. Si vous vous rappelez, il y a 2 présidents militaires qui ont fait leur retour sur la scène africaine grâce à l'Union africaine. Il y a le président du Tchad qui a fait un coup d'État et qui maintenant est accueilli au sommet de l'UA. Vous avez le président du Gabon qui a fait un coup d'État et qui a été adoubé par ses pairs. Donc, ce n'est pas seulement une question de la CDAO, c'est aussi une question de l'Union africaine. Il faut que l'on ferme définitivement l'ère des régimes militaires en refusant totalement cette civilisation des régimes militaires. Ce n'est pas dans l'intérêt des populations, ce n'est pas dans l'intérêt de l'Union africaine et ce n'est pas dans l'intérêt de la démocratie en Afrique.
Papi Ibrahima Kan, merci.
Le chercheur sénégalais Papi Ibrahima Kan entretient avec Christophe Boisbouvier. RFI Matin, votre chronique matière première. On parle aujourd'hui du marché des engrais plongé, tout comme le pétrole, dans l'inconnu depuis le début de la guerre entre Iran et Israël. Pourquoi ? Eh bien, parce que le conflit risque de mettre en péril les exportations de gaz qui servent à fabriquer certains types d'intrants et parce que l'Iran est lui-même producteur d'engrais. Bonjour Marie-Pierre Olfond.
Bonjour.
Les marchés, Marie-Pierre, ont déjà réagi. L'urée, un des engrais les plus utilisés au monde, a vu son prix augmenter.
Oui, la hausse est de 50 à 80 dollars par tonne selon les régions du monde. On peut parler d'une augmentation en moyenne de 20% en une dizaine de jours, ce qui est considéré comme une hausse gigantesque. La première raison, c'est que la production s'est arrêtée en Iran. Or, le pays exporte en temps normal 5 à 6 millions de tonnes d'urée par an. Et quand un fournisseur qui compte est empêché, comme c'est le cas aujourd'hui, les marchés réagissent souvent très vite, voire même par anticipation.
Et la hausse des prix est due aussi à un arrêt temporaire de la production d'urée en Égypte.
Oui, car Israël a dû suspendre les flux qui partaient de ses champs gaziers vers l'Égypte le 13 juin. Un coup dur pour les fabricants égyptiens d'engrais qui souffrent déjà d'ordinaire en cette saison chaude, car une partie de l'approvisionnement en gaz sert à faire tourner aussi des climatiseurs. L'arrêt de l'approvisionnement israélien en gaz n'a duré finalement que 6 jours, mais cela a suffi à alimenter la hausse des prix. Plusieurs autres facteurs haussiers et baissiers pèsent dans la balance. Il est donc aujourd'hui très difficile de dire comment vont évoluer les prix de l'urée dans les prochaines semaines.
Le reflet de ces tensions s'illustre dans un appel d'offres émis par l'Inde.
Un appel d'offres pour acheter de l'urée. Il y a eu beaucoup de candidats. Les deux meilleures propositions de prix ont été validées, logiquement. L'Inde a ensuite tenté de convaincre, comme elle le fait généralement, les recalés de s'aligner sur ses prix. Mais personne n'a voulu s'engager, tant la situation géopolitique et son impact sur les cours est incertaine. Résultat, le pays n'a pu acheter que 230 000 tonnes d'urée, alors que ses besoins sont estimés à plus d'un million de tonnes. Et rien ne dit que ceux qui ont remporté l'appel d'offres indien pourront livrer au prix annoncé.
Merci Marie-Pierre Olfond.
RFI Matin.
Comme chaque jour, un reportage de 20 minutes à écouter sur RFI préparé par nos correspondants et nos envoyés spéciaux à travers le monde. Aujourd'hui, direction le Brésil, dans ce qu'on appelle la vallée de la misère. C'est la vallée du Jequiti-Nyoná qui s'étend sur 50 000 mètres carrés le long du fleuve du même nom. Région connue pour son climat aride et ses populations rurales où la pauvreté pousse souvent une partie des habitants à émigrer. Mais c'est sans compter sur l'incroyable richesse de l'artisanat de la région, tenue par les femmes. C'est notre grand reportage du jour. Brésil, l'artisanat planche de salut pour les femmes de la vallée du Jequiti-Nyoná. C'est signé Sarah Cozzolino et tout de suite un extrait.
Fileuses, tisserandes et brodeuses se réunissent dans le village de Tocoyos-Jimin à son rythme d'ancien cantique. Les fileuses de coton sont disposées en cercle dans un grand hangar aux murs blancs et fenêtres bleues. Tionil a appris à filer le coton quand elle avait 6 ans, d'abord manuellement avec une quenouille, puis à l'aide d'un rouet à pédales tout en bois. D'abord, j'ouvre les fibres de coton emmêlées, puis je pince ici et je pédale. Petit à petit, le fil s'enroule autour de la bobine. Et quand elle est remplie, je change de bobine. Et c'est comme ça que ça marche. Au fond du hangar, quelques métiers à tisser de différentes tailles. Lunettes sur le nez et débardeur fleuri, Maria Emilia da Silva, plus connue comme Mila, a les mains pleines de fils.
Je suis en train de positionner les fils sur le métier à tisser pour commencer une nouvelle pièce.
Ça va être pour faire quoi ?
Un tapis pour le salon, avec 90 cm de largeur et 1,65 m de longueur.
À 70 ans, Mila fait partie de l'association des fileuses et tisserandes de Tocoyos depuis 25 ans.
Aqui eu faço um pouco de tudo, eu sei fiar, eu fio, teço, ajudo elas a armazenar.
Ici, je fais un peu de tout. Je sais filer, tisser, je les aide à préparer les fils sur le métier à tisser. Je fais partie du groupe qui fait les teintures naturelles du coton, en préservant la nature et la richesse de notre terre. Je suis aussi professeur de tissage dans un autre village, à une heure d'ici. Pour moi, c'est quelque chose de très enrichissant. Je suis passionnée par ce que je fais. Quand je commence à tisser, que j'imagine cette pièce et que je la vois prendre forme sous mes yeux, je me rends compte que c'est un art et ça me rend heureuse. Quand j'ai fait la teinture de ce fil que vous voyez, je voulais qu'il soit vert kaki et j'ai réussi.
Pois eu consegui fazê-lo camuflado.
Como é que vous avez réussi cette teinture?
Eu peguei a casca da árvore da manga.
J'ai pris de l'écorce de manguier et je l'ai mise à tremper avec un autre produit naturel, extrait des cendres. J'ai laissé ça infuser 3 jours, puis j'ai pris de l'écorce d'un arbre à goyave et j'ai fait bouillir le tout avec le coton pour que les pores s'ouvrent.
Ce grand reportage de Sarah Cozzolino à écouter en intégralité aujourd'hui sur RFI à 19h40, temps universel en podcast sur notre site mais aussi sur notre application RFI Pure Radio. Vous restez avec nous à suivre le journal international de Jeanne Bartoli. On va revenir bien sûr sur ce cessez-le-feu entre Iran et Israël. Il est entré en vigueur, assure Donald Trump. Qu'en est-il sur le terrain? On en parle dans une poignée de secondes.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Gabon, c'est un projet de loi qui soulève des inquiétudes. Faut-il réduire le nombre de partis politiques en durcissant les critères de création? Quelles seront les conséquences sur le paysage politique? Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Cool.
Couleur tropicale, Claudiciard.
Toutes les musiques d'Africa et de ses diasporas sont chaque jour sur RFI. L'actualité de nos artistes, les questions des chroniqueurs, les blind tests, les quiz, le show, la libre antenne, les spéciales font de Couleur tropicale un moment de divertissement, de partage, de savoir, d'expression des identités afro et leur histoire. Couleur tropicale, toi-même tu connais.
Couleur tropicale, Claudiciard.
Du lundi au vendredi à 20h10 TU sur RFI.